France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, j'accueille Renée Auphant et à travers elle, toute une histoire d'amour avec l'opéra et la musique française. Marseillaise de naissance, Renée Auphant a débuté très tôt dans l'opéra de sa ville natale avant d'entrer en troupe à l'opéra comique. Mais c'est aussi comme directrice qu'elle a laissé de grands souvenirs à Lausanne, à Genève et enfin de nouveau à Marseille où on lui doit les redécouvertes de L'Aiglon ou des opéras de son ami Jean-Michel Damaz. Renée Auphant est avec nous ce matin pour évoquer ses passions qui continuent à la guider.
Au cabaret du labyrinthe, cette nuit j'ai soupé, mon vieux, avec ces dames de Corinthe, tout ce que la Grèce a de mieux. C'est Parthenis, Héléna, qui m'ont dit de vouloir connaître.
Pouvais-je m'attendre à cela, mesdames, j'ai bien l'honneur d'être.
C'est Parthenis, Héléna,
c'est Parthenis, Héléna.
C'est Parthenis, Héléna, c'est Parthenis, Héléna.
C'est
Parthenis, Héléna.
Je
m'attendrai à cela, mesdames, j'ai bien l'honneur d'être.
C'est Parthenis, Héléna.
C'est Parthenis, Héléna.
C'est Parthenis, Héléna. C'est Parthenis, Héléna.
Héléna.
Bonjour Renée Auphant, et merci pour cette petite promenade au cabaret du labyrinthe, vous aviez l'air de bien vous amuser. Hein.
Oui, je me suis beaucoup amusé sur scène et pendant les répétitions, mais un peu moins
pendant l'enregistrement. Alors Renée Auphant, je vais le dire tout de suite à nos chers auditeurs, vous détestez vous entendre chanter, ça vous gêne, mais on ne pouvait quand même pas se priver, surtout dans cette émission, de commencer par un petit Offenbach que vous aviez enregistré donc sous la direction d'Alain Lombard, vous le chantez au reste. Ici, vous l'avez chanté aussi sur scène, vous chantiez Hélène. Hein,
je chantais Hélène en alternance avec Jeanne Rhode. Divine Jeanne Rhode.
Elle était comment, Jeanne Rhode, comme camarade?
Écoutez, moi je m'en suis beaucoup occupée, j'étais
très extravagante.
Avec elle, mais elle était un peu désespérée à l'époque.
Ah oui.
Oui, parce qu'elle ne se retrouvait pas dans sa beauté passée.
Ah, c'est ça, oui.
Elle a... Alors c'était un peu triste pour elle.
Voilà, le temps passé, les années passées.
Et voilà, et voilà oui, elle se trouvait grosse, elle se trouvait, ah voilà, oui. Elle se trouvait moche, elle était très belle. Hein.
En tout cas, c'est une très belle version de La Belle Hélène, donc celle donc dirigée par Alain Lombard et qui nous rappelle que vous avez été chanteuse avant d'être directrice d'opéra.
Oui, mais c'est tellement loin. Si vous savez que ça me paraît impensable. Quand je... Alors évidemment, quand je m'entends, je suis effarée parce que vous entendez comme ma voix a évolué quand même.
Ah ben les voix se transforment J'étais... avec le
ah
temps.
Ah ben la mienne. Alors je suis devenue basse depuis.
En tout cas, merci d'être avec nous parce que moi j'ai beaucoup d'admiration pour vous parce que vous avez fait un travail magnifique pour l'opéra et notamment pour l'opéra français, que ce soit à Genève et ensuite à Marseille comme directrice. Et vous avez été un peu quand même une des seules à vous battre pour ces répertoires oubliés. Comment vous expliquez ça d'ailleurs ?
Ben, je ne me l'explique
pas. On a l'impression que les directeurs d'opéra ont tous un peu envie de faire tous la même chose.
Oui,
et vous,
exactement.
Vous aviez envie de faire autre chose.
Ben, moi j'avais envie de faire ce que j'aime, oui. C'est-à-dire des choses très françaises déjà, parce que j'aime particulièrement la musique française, oui. L'opéra français. Oui. Et l'opéra français, non seulement à cause de la musique, mais à cause des livrets, qui me paraissent beaucoup plus spirituels, souvent drôles, souvent tendres, souvent sentimentaux, et en même temps toujours teintés un peu de drôlerie, oui,
il faudrait
qui n'existe pas.
Il faudrait expliquer ça aux metteurs en scène, qui en général se croient obligés de réécrire les livrets.
Écoutez, ne parlons pas de ça, parce que je suis outré par ce qui se passe.
Ah oui.
Ouais, non, moi, je pense qu'en tant que directrice, je n'aurais jamais accepté ce qui se fait à l'heure actuelle.
Aujourd'hui. Voilà. À la fois la curiosité et en même temps le respect des œuvres.
Respect total. Total. Moi, je ne supportais pas qu'on mette des gens tout nus sur scène, déjà quand ça n'était pas nécessaire. Si c'était dans Fifi ou dans Thaïs, d'accord.
Ça, c'est une grande manie, le tout nu et le fond de scène sans décor,
voilà,
avec juste noir, les murs. Voilà,
gris, ouais. Il n'y a que du gris, du vilain, du lait. Voilà, je suis très réactionnaire, paraît-il.
Allez, bah, écoutez, vous êtes bienvenue. Et on va évoquer, bah, oui, à la fois votre vie de chanteuse, d'artiste, et aussi votre vie au service donc, de l'opéra. Vous avez été directrice de Marseille jusqu'en 2008.
Oui, à peu près.
Voilà.
Je ne sais pas très bien les dates.
Aujourd'hui, vous vivez tranquillement, j'ai envie de dire, au bord du lac Léman. Ben, pour une Marseillaise, la Suisse et Marseille, c'est quand même quasiment l'opposé, non ?
Eh bien, écoutez, pas tant que ça.
Ah,
oui,
tant que
oui
ça,
sur le plan de mentalité, c'est évident.
Du style de vie,
voilà,
de l'animation.
Moi, j'ai le lac sous les yeux,
voilà,
n'est-ce pas ?
Comme vous aviez la mer à Marseille.
Comme j'avais la mer à Marseille. Et finalement, non, j'adore la Suisse. Je pense qu'à Marseille, je me suis bien amusé quand même. Hein. J'ai beaucoup souffert. Hein.
Ouais.
Beaucoup souffert.
On va en parler, c'est une ville compliquée.
Je me suis bien amusé quand même. Ben, en Suisse, on s'amuse un petit peu moins.
Voilà, c'est dit. Mais on peut mener des jours tranquilles et confortables. Marseille, justement, Marseille, revenons-y. Bon, ben, vous n'étiez pas bien grande, vous n'étiez peut-être même pas née quand sont sorties les dernières opérettes marseillaises, mais que j'ai quand même choisi pour vous cette jolie petite chanson.
Si tu veux, tout autour de la corniche, tous les deux, en tramway comme des riches, entre l'eau et le ciel bleu, nous ferons le voyage le plus merveilleux. Et malgré que la route soit trop brève, si nos cœurs tendrement font un beau rêve, nous nous croirons, tu verras, dans un slépège tout le long de la Riviera. Car lorsqu'on s'aime d'amour extrême, tout paraît plus beau ici-bas. Si tu veux, tout autour de la corniche, tous les deux, en tramway comme des riches, nous trouverons au retour notre bonheur, notre jeunesse et notre amour. Et tout le long du voyage, bien qu'on l'ait fait mille fois, charmé par le paysage, on s'extasie malgré soi. Quel ton chatoyant, quel tableau charmant. Le soleil est un peintre de grand talent. Quand on est blasé, on plaire les fauchés qui font le voyage à pied. Si tu veux, tout autour de la corniche, tous les deux, en tramway comme des riches, entre l'eau et le ciel bleu, nous ferons le voyage le plus merveilleux. Et malgré que la route soit trop brève, si nos cœurs tendrement font un beau rêve, nous nous croirons, tu verras, dans un slipège tout le long de la Riviera. Car lorsqu'on s'aime d'amour extrême, tout paraît plus beau ici-bas. Si tu veux, tout autour de la corniche, tous les deux, en tramway comme des riches, nous trouverons au retour.
d'Arcelis qui chantait tout autour de la corniche dans l'opérette Les Gangsters du Château d'If, co-signé de Vincent Scotto et de l'autre grand personnage de l'opérette marseillaise, René Sarville. Oui. C'est un nom qui vous dit quelque chose?
René Sarville.
René Auffant.
Je l'adorais parce que j'adorais son épouse qui était Juliette Sarville, qui s'appelait également Saint-Ginier.
Ah oui.
Et j'allais prendre le café tous les après-midi chez eux.
Donc quand vous étiez jeune fille, donc bien après la création de ces opérettes, il était toujours là à Marseille.
Oui, bien sûr.
Il habitait sur la corniche, justement.
À côté de la corniche, juste à l'entrée de la corniche. Évidemment, je voyais défiler Rélis, Sardou, Fernand, Fernand. Et Wilmette, que j'avais rencontré là. Mais moi, vous savez, j'avais 19 ans, 20
ans. Qu'est-ce que ça représentait pour vous, vos parents?
Rien.
Vos parents, ils n'écoutaient pas d'opérette marseillaise?
Ça ne représentait rien, ce qui fait que je n'en ai pas profité.
Ah oui.
En tant qu'artiste, si vous voulez. J'en profitais comme personnage, très drôle, tout,
voilà.
Intéressant, je les écoutais. Mais par exemple, quand j'ai rencontré Wilmette, ben, je ne savais pas qui c'était.
Qui c'était, oui.
J'étais ébloui quand il m'a dit qu'il connaissait très bien Sacha Guitry. Alors,
parce que la culture musicale familiale, dans
il n'avait pas.
C'était quoi chez vos parents?
Rien.
Rien.
Non, on écoutait un peu la radio, mon frère et moi, mais on écoutait Sidney Bechet. Vous voyez, j'écoutais ce qu'écoutait mon frère.
Et à l'époque, malheureusement, après la guerre, le musical et l'opérette marseillaise étaient un petit peu déjà en voie de disparition.
Oui, et puis mes parents ne sortaient pas.
N'y allaient pas.
Non.
Mais alors, qu'est-ce qui vous a conduit vers l'opéra, puisque vous êtes très jeune, entrée comme assistante à 19 ans à l'Opéra de Marseille. Qu'est-ce qui fait que...
C'est ma mère qui a découpé une petite annonce dans le journal.
Ah oui ?
Où il y avait marqué qu'il y avait un metteur en scène qui cherchait une assistante pour un mois. C'était payé 1000 francs, ce qui était beaucoup. Moi, j'étais un peu en attente d'entrer dans une école de kinésithérapie.
Ah oui, c'est drôle.
Et ma mère m'a dit, vas-y, tu risques rien. J'y suis allée, effectivement, je risque rien puisque j'ai été engagée. C'était donc Ducreux-Picon.
Alors, Louis Ducreux, c'est aussi un personnage marseillais, on peut dire.
Absolument,
c'était
une grande famille marseillaise,
oui.
Vous voyez. C'est lui qui a créé la première, paraît-il, hein, c'est ce que j'ai appris par la suite, c'est qu'il a créé le premier théâtre décentralisé français, qui s'appelait le Rideau Gris. Où il avait, alors, comme c'était des amateurs en quelque sorte, et il avait Vakevitch, André Roussin qui est entré avec lui.
Autre Marseillais.
Voilà, il y avait la comtesse Pastré qui soutenait énormément la troupe, il y avait Madame Desfers, jeune fille aussi qui jouait, enfin c'était...
Edmonde.
Oui, c'était tout un petit monde bourgeois, de la haute bourgeoisie marseillaise. Et ils ont créé ce théâtre, et puis après, comme on dit, il est monté à Paris avec une pièce, et voilà.
Voilà, donc il était auteur, il a même écrit des chansons, d'ailleurs.
Il a écrit une chanson que j'adorais, qui était « La rue s'allume ».
Ah oui. Et il était nommé donc directeur de l'Opéra
d'abord,
de Marseille.
D'abord, il était engagé comme metteur en scène, beaucoup par l'adjoint à la culture qui s'appelait M. Goudarot, et qui était un grand avocat. Il a fait cette mise en scène où j'ai été engagée comme assistante. Moi, ça m'a bouleversée complètement.
C'était Manon.
Manon.
Voilà.
Ah, alors là, j'ai été absolument ébloui. Et je ne comprenais rien, évidemment, rien.
Voilà comment donc tout a commencé, en tout cas pour vous, auprès de Louis Ducreux, à l'Opéra de Marseille. On va retrouver, pour le plaisir, j'ai choisi quelques enregistrements que j'aime et d'autres que vous m'avez suggéré qui m'enchantent. Mmh. On va retourner un petit peu dans l'opéra de ces années-là avec une grande artiste qui est sur la Côte d'Azur, toujours parmi nous d'ailleurs, que je salue, qui s'appelle André Esposito.
Oh, que j'adore, que c'est j'ai vu dans presque tout ce qu'elle pouvait chanter, Traviata, Manon, Mireille, elle était magnifique. Hein.
Et dans Mignon, vous la trouvez bien?
Écoutez, alors ça m'étonne parce que j'ai appris par ce Mignon qu'elle avait été coloratour.
Voilà, c'est ça qui est surprenant, ça va très très haut. Hein.
Ah oui.
On me voit voltiger.
Je suis Titania la blonde, non pas moi, mais André Esposito dans cet air de mignon choisi par mon invité René Auffant. Quelle allure, hein, quand même.
Pas, oui, non,
cette moi, j'ai grande cette soprano femme, qu'on salue,
elle,
qu'on admire.
C'était une grande actrice, elle était prenante. Hein.
Voilà, toute jeune fille devenue assistante du metteur en scène, puis du directeur, qui devient lui-même directeur de l'Opéra de Marseille. Oui. Et vous êtes jeté comme ça dans le monde de l'Opéra, sans connaître, au fond.
Oui, je suis arrivé là. Et c'est vrai que la première fois que Ducreux m'a dit d'aller dire à un figurant de se mettre un peu plus au jardin, quand je suis arrivé sur scène, j'ai eu les jambes qui se sont mises à trembler. Je me souviens de ça. Une peur d'être sur scène et d'aller parler à quelqu'un. C'est vrai que j'ai découvert, ce qui m'a fasciné évidemment, c'est les chanteurs, quoi, tout de suite. Hein.
C'était quoi d'ailleurs dans ces années-là, donc on est au début des années 60, hein, le répertoire et le public de l'Opéra de Marseille à l'époque.
Formidable. Ah, oui. Vous vous rendez compte, on jouait à peu près 24 opéras par an. Opérettes.
On est loin d'aujourd'hui, oui.
Hein, vous vous rendez compte. Ouais. Maintenant, dans les théâtres, je dirais moyens, on joue entre 6 et 7.
Oui, c'est ça. Hein,
c'est incroyable. Oui. Alors, on répétait très peu, évidemment, mais alors les chanteurs étaient... Moi, je les trouvais formidables parce que j'ai vu des Tosca que je n'ai jamais oubliés. Et cette Manon était extraordinaire parce que Ducreux arrivait en tant qu'homme de théâtre. Ce qu'on était très peu habitué à ça, ça n'existait pas à l'époque. Hein. Ducreux, je me souviens, il faisait rentrer un coche du fond de la scène au galop.
Ah oui.
Après être...
Comment il s'arrêtait?
Je ne sais plus comment c'était possible, ça.
En tout cas, vous avez été marqué par ces premières expériences, notamment une Carmen de Bernard Buffet, si j'ose dire, pour les décors et les costumes.
Extraordinaire. Ah ouais. Et alors, c'était d'une beauté incroyable. Et alors, il avait fait des affiches avec une tête de Carmen sublime, qui était posée, qui était collée sur une grande... feuille blanche où il y avait marqué Carmen, les dates, etc. On n'a pas eu le temps de les poser, que le lendemain, toutes les têtes avaient disparu. Les gens étaient venus décoller des affiches, mais ils avaient décollé juste la peinture, quoi, la litho. Qui
voilà, pour avoir les buffets.
Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il avait fait des rideaux de scène qu'il avait repeints lui-même pendant toute une nuit. Où moi j'apportais les whisky, vous savez.
Vous avez aussi les whisky.
Et oui, c'était ma fonction.
En train de peindre les décors.
C'était ma fonction première. J'apportais les whisky.
Les cafés, les whisky.
Et lui peignait, vous vous rendez compte. Eh bien, ces rideaux ont disparu. On ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus.
Voilà. Et alors, c'est dès ces premières années, donc à l'Opéra de Marseille, où vous avez donc été engagé officiellement. C'est dès cette époque, du moins, que vous avez assez vite rencontré quelqu'un qui va jouer un rôle important dans votre vie, même si c'était pas à Marseille. C'était Jean-Michel Damas.
Ah ben oui.
Parce que vous étiez allé à Bordeaux, dans le cadre de votre travail.
Nous étions allés voir Colombe, la création de Colombe.
Le magnifique opéra de Jean-Michel Damas sur un texte d'Anouilh.
D'Anouilh, pièce extraordinaire. Et surtout l'opéra, parce que l'opéra étant réduit à l'essentiel, ça prend une dimension supérieure, moi je trouve, à la pièce elle-même. Et alors là, il y avait Jacques Doucet. Il y avait André Dran, il y avait Christian Arbel.
André Dran, faut préciser que c'est le père de Thierry Dran, un grand ténor, qui est lui-même le père de Julien Dran, autre grand ténor.
Hein. Et j'ai fait des contrats pour les trois, moi.
Ah oui, d'accord.
Oui, c'est à Julien. Je dis, tu sais, ton grand-père lui a même fait un contrat.
Damas, ça vous a tout de suite accroché.
L'œuvre m'a complètement bouleversé. Et ensuite, le personnage.
On lui a consacré récemment, d'ailleurs, toute une émission, avec Jean-Claude Darcet.
Je l'avais écouté, c'était magnifique. Et j'ai tellement aimé cet homme, Jean-Michel. Je ne sais pas pourquoi il me faisait... Après avoir lu beaucoup de choses sur Mozart, et après avoir vu le fameux film, vous savez, sur Mozart, je me disais, mais au fond, il est exactement comme Mozart. C'est un enfant.
C'est un enfant, oui. C'est vrai qu'il avait un côté enfant.
On pouvait tellement rire avec Jean-Michel.
Alors, en tout cas, vous avez une longue histoire qui a commencé avec lui. On le redira après, vous avez vous-même chanté plusieurs œuvres de Damas. Et puis, comme directrice, vous êtes toujours restée fidèle. Oui. Et notamment, à Marseille, vous avez monté L'Héritière.
J'ai monté L'Héritière.
Et aussi
Colombe.
Et Colombe, justement, cet opéra entendu à Bordeaux.
Robert Fortune, qui avait fait une mise en scène merveilleuse.
Et quelques années auparavant, vous aviez déjà repris, et j'y étais, je me souviens, c'était un magnifique spectacle, Madame II, autre opéra de Damas, que on va écouter ici, justement, dans un extrait de la production de Genève. C'est le duo de Madame
II et de l'ambassadeur.
Monsieur de m'assurer que vous l'adoriez.
Voilà, c'est une captation évidemment d'un petit peu loin de, oui. du plateau, mais c'est donc quand même, on entend la beauté temps, de cette musique, de cette, voilà, ces oui. harmonies de Jean-Michel Damas dans Madame 2, chantée par Alexandra Tchokou et Nicolas Rivinck à Genève, sous votre direction en 2001. Il faut quand même préciser, on va revenir tout de suite justement à votre carrière de chanteuse, c'est vous qui avez créé un des rôles de Madame 2.
Oui, j'avais créé La Belle Argentine, voilà. et ça a même été...
À Monte Carlo.
À Monte Carlo, ça... Ça devait être dans les années 60, quoi, toujours.
Voilà, 66, voilà. 67, quand vous avez commencé à chanter, ben justement.
Quand j'ai commencé. Oui.
On va y revenir parce que vous êtes donc à Marseille avec Ducreux, vous découvrez Damas à Bordeaux. Et puis, justement, Ducreux vous envoie en quelque sorte à Monte-Carlo parce qu'il y avait un lien entre
C'est-à-dire,
les deux maisons.
Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'à un moment, Ducreux a quitté Marseille, a quitté l'Opéra de Marseille, le temps de passer 3 mois à peu près à la campagne. Il a été appelé par le colonel Ardan.
Le colonel Ardan,
qui était le gouverneur du palais ah oui. à Monte-Carlo, et qui lui a demandé de prendre la direction de l'opéra de Monte-Carlo. Donc, il a accepté. C'était magnifique d'aller à Monte-Carlo. Évidemment, moi, je suis parti avec lui. Et peu de temps après, Marseille a de nouveau demandé Ducreux. Ce qui fait qu'il a gardé à la fois Marseille et Monte-Carlo. Et ce qui m'a permis, moi j'étais la seule employée de l'opéra.
De l'opéra de Monte-Carlo, ce oui. magnifique opéra de Garnier.
Oh, quelle merveille. Et là, je dois dire, j'ai tout appris. Quoi. J'ai appris déjà ce que c'était que diriger une maison, parce que Ducreux était très souvent à Marseille, qui est une maison beaucoup plus lourde. Mais alors moi, j'avais les coudées franches. Et j'ai eu un plaisir fou parce que je payais les artistes, je faisais la...
c'était
moi
pas
qui
mal.
Gérais l'argent, voilà. qui faisait les contrats, qui faisait la régie, qui était assistante des metteurs en scène, qui était... Enfin bref, je faisais tout. Et puis, c'est là que j'ai appris, et puis en même temps que j'ai appris à chanter. Voilà, que j'ai commencé à apprendre le chant, à poser ma voix, parce qu'apprendre le chant, c'est autre chose.
Hein. Alors, entre Marseille et Monte-Carlo, peut-être plus encore à Monte-Carlo, vous avez aussi continué d'ailleurs à faire des rencontres. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous ne saviez pas toujours à qui vous aviez affaire, mais enfin, on peut encore en mentionner quelques-uns. Ça, je crois que c'était à Marseille, il y a eu Poulenc, par exemple.
Oui, on a eu un dîner avec Francis Poulenc, mais là non plus, je ne réalisais pas du tout. Hein. On était dans une pizzeria, et il nous racontait ce qu'il voyait des mamelles de Tiresias.
Ah, voilà.
C'est-à-dire le contraire de ce qui se fait à l'heure actuelle.
Voilà.
Parce qu'il disait, pour moi, c'est beaucoup plus axé sur le lido que sur quelque chose de vériste. Donc c'était la poésie, quoi.
Une autre grande figure marseillaise, vous l'avez citée tout à l'heure, la comtesse Pastré.
Oui, bien sûr. Alors, la comtesse Pastré, comme elle avait été très copine, je dirais, avec Ducreux du temps de sa jeunesse, quand il a été nommé à Marseille.
Elle venait aux premières.
Elle venait. Alors, c'était très drôle.
Alors, c'était le grand personnage de Marseille.
J'étais fasciné parce qu'elle arrivait en robe du soir, mais avec des charentaises aux pieds. Elle avait mal aux pieds, alors elle s'en fichait complètement. Elle était très... Moi, alors là, j'étais absolument en extase. Évidemment devant ce genre de personnage. Et vous savez, Marseille, à cette époque, il y avait quand même des personnages intéressants d'une haute bourgeoisie qui était en train de périr un peu. Oui. Voilà.
À Monte-Carlo, également, vous avez rencontré un grand compositeur, c'est Menotti.
Oh, mon Giancarlo.
Alors, ça mon Giancarlo.
Oh, mais Giancarlo, carrément. Ça a été... Mais je l'ai tellement adoré, je suis tombé complètement amoureux.
Et vous avez d'ailleurs remonté aussi ses opéras plus tard à Marseille.
Oui, bien sûr. Mais en plus, écoutez, je trouve ça très injuste, comme sont traités ces compositeurs, qu'il s'agisse de Menotti... ou de Damas,
ou de Damas. Même.
Parce que chaque
le
fois
téléphone,
que...
c'était un des grands succès de l'opéra comique.
Mais oui, et maintenant, quand vous montez ça en tant que directeur, c'est à peine si vous ne faites pas insulter, en tous les cas, mépriser. Bon, il n'y a que aux femmes pour monter Damas.
Il était comment, Menotti, par ailleurs?
Ah, c'était un homme tellement charmant, et que j'aimais tellement, et puis moi, je faisais la régie du médium, et figurez-vous que j'ai pourtant donné le bon top. Mais on le donnait à l'époque avec la lampe électrique.
Ah oui.
Je ne sais pas ce qui s'est passé, les machinistes se sont trompés. Et au moment où on faisait la scène, où on fait bouger les tables dans le médium, ils l'ont fait monter toute seule. Avant qu'il se... Ce qui fait que Menotti est arrivé à la fin du spectacle. Moi j'étais à la...
Ah le pauvre.
Pour me dire, mais enfin René, comment avez-vous pu me faire ça? Je dis, mais c'est pas moi. Et je pleurais pendant toute la soirée.
Mais c'était un spectacle effectivement très populaire après guerre. En général, on couplait d'ailleurs le médium et le téléphone.
Et le téléphone. Hein,
voilà, c'est deux opéras en un acte.
On ne monte plus Menotti, nulle part.
Sauf vous à Marseille, il y a quelques années, vous aviez repris.
Ben, moi j'ai repris, déjà j'ai fait le médium à Lausanne, et ensuite j'ai fait Maria Golovine, et ça a été la dernière apparition de Menotti, qui était dans un fauteuil roulant, et qui est mort un mois après. Hein, ça a été le dernier de ses opéras qu'il ait vu, ça a été à Marseille, c'était Maria Golovine, qui est un opéra délicieux.
Alors on va parler d'un autre personnage qui a joué un rôle important dans votre vie, parce que d'une certaine façon c'est lui qui vous a poussé vers le chant. Et vous évoquiez à l'instant les Mamelles de Tirésias, ce merveilleux opéra à bouffe, ambiance casino, comme disait Poulenc, c'est ça?
Oui, voilà. Lido, il voulait quelque chose. De...
Lido, et on va retrouver tout de suite justement dans deux petits extraits des Mamelles, le grand, l'excellent Jean Giraudeau.
Ah oui.
C'est fou, les joies de la paternité. 40 049 enfants en un seul jour. 40 049 enfants en un seul jour. Mon bonheur est complet. Silence. Le bonheur en famille, pas de femme sur les bras. Le bonheur en famille, pas de femme sur les bras. Pas de femme sur les bras. Silence. Silence. Il faudrait peut-être les mener à la baguette, mais il vaut mieux ne pas brusquer les choses. Je vais leur acheter des bicyclettes, et tous ces bientôt, iront faire des concerts en plein air. Silence.
Eh oui, c'est simple comme un périscope. Plus j'aurai d'enfants, plus je serai riche et mieux je pourrai me nourrir. Nous disons que la morue produit assez d'œufs en un jour. Pour qu'éclos, il suffise à nourrir de brandades et d'aïoli le monde entier pendant une année entière. N'est-ce pas que c'est épatant d'avoir une nombreuse famille? Mais quels sont donc ces économistes imbéciles qui nous ont fait croire que l'enfance était la pauvreté, tandis que c'est tout le contraire? Est-ce qu'on n'a jamais entendu parler de morue morte dans la misère? Aussi vais-je continuer à faire des enfants.
Faisons d'abord un journaliste. Comme ça, je saurai tout. Je devinerai le surplus. Et j'inventerai le reste. Il faut qu'il soit apte à toutes les besognes et puisse écrire pour tous les partis. Quel beau journaliste ce sera. Reportage, article de fond, etc. Et il faut un sang puisé dans l'encrier. Il faut une épine dorsale, de la cervelle pour ne pas penser, une langue pour mieux baver. Il faut encore qu'il connaisse le chant.
Musique. Étonnez-moi Benoît. Benoît Dutertre.
Jean Giraudot, aussi bon comédien que chanteur, hein, dans ses mamelles de Tirésias, René Offan.
Vous avez entendu cette articulation,
extraordinaire.
Hein.
C'était un grand chanteur très présent dans les archives de la radio, où il a fait beaucoup, beaucoup d'opérettes. Il a été aussi directeur de l'Opéra Comique.
Oui, c'est lui qui m'a engagé.
Et c'est lui qui vous a fait chanter, en quelque sorte.
Oui, écoutez, il était passé par Monte Carlo pour écouter une chanteuse italienne qui est arrivée très en retard.
Vous étiez donc à l'époque toujours assistante, mais oui. N'imaginant pas du tout devenir chanteuse.
Non, pas du tout, parce que effectivement, j'avais appris le chant par curiosité, hein, parce que c'est quand même étrange d'entendre tous ces gens comme ça pousser des notes et puis bon, se demander comment ils font. Et puis Giraudot m'a entendu en passant dans le couloir. Je chantais dans un studio et il m'a dit, eh ben, écoutez, comme j'ai du temps, la chanteuse n'arrivant pas, il m'a dit, passez-moi une audition. Et moi, à l'époque, j'étais pas du tout timide. Vous savez, quand on n'a pas d'enjeu, finalement,
il n'y a pas d'enjeu. On y va.
On y va. Alors, j'y suis allé, j'ai chanté Manon, Traviata, Musette.
Tout ce que vous entendiez.
Tout ce que j'avais sous la main, là. Et finalement, il m'a dit, je vous engage, si vous voulez, à l'Opéra Comique. Et ça a été pour moi très brutal.
Vous commenciez une carrière de metteur en scène.
On était au début de l'été. Et je commençais au mois d'août.
Oui.
Quand j'ai dit ça à mes parents, je veux dire, ma mère m'a dit...
En plus, monter à Paris, oh là là.
Oh là là, mais m'a dit, t'es complètement toqué. Tu vas te retrouver au chômage, ce qui est arrivé.
Ce qui est arrivé, parce que alors vous vous êtes retrouvé dans la troupe de l'Opéra Comique, mais sauf que c'était la toute fin.
C'était la fin.
De cet Opéra Comique avant la fermeture.
Et oui. Et pourtant, alors c'était dommage parce que d'abord j'ai découvert Giraudot comme directeur, qui était formidable, et ensuite comme metteur en scène, parce qu'il avait mis en scène Les Noces de Figaro où Berbier chantait Chérubin. Et j'étais allé voir les répétitions et je me suis dit, mais. Comme c'est intelligent. Et là, j'ai découvert un Giraudot que j'ignorais, parce que je connaissais.
Et du coup, vous avez chanté Chérubin.
Et du coup, j'ai chanté Chérubin, dans sa mise en scène. Et ce fut un régal.
Voilà, donc vous êtes quand même un peu associé à la fin de cette grande histoire de la troupe de la Salle
Favart. J'ai défilé dans les rues.
Et puis est arrivée la fermeture de l'Opéra Comique, la réforme Liberman, qui a tout changé à l'opéra, on le sait, avec le départ de beaucoup de chanteurs français. Mais vous avez continué quand même à travailler un petit peu dans la mini-troupe qui avait été constituée.
Oui, je n'ai jamais compris à quoi ça tenait, mais j'ai été engagé. J'ai passé ma vie, vous savez, ma vie de chanteuse, je l'ai passée à faire des auditions. Bon, une fois qu'on était dans la troupe de l'Opéra Comique, tout allait bien. Mais dès l'instant qu'il fermait, il fallait reprendre les auditions un peu partout. Donc j'ai passé une audition devant Monsieur Liberman, qui m'a interrompu au milieu d'ailleurs. J'ai cru que je m'évanouissais. J'ai dit ça y est, c'est fini. Et après j'ai été engagé. Voilà.
Donc c'est comme ça que par exemple vous étiez aussi sur scène dans le Faust de la Veli qui a beaucoup marqué cette époque où vous étiez si belle.
J'étais si belle que j'ai pris au pied levé. Parce que c'était un garçon qui le faisait. Et puis, tout à coup, on n'a plus voulu de ce garçon. Et alors, du coup, on m'a demandé de venir prendre le rôle le matin pour le soir. Ce qui fait que j'avais joué avec mes pantalons, que j'ai fait, parce que j'ai dit, je veux mes pantalons et tout ça, et que j'ai vu après pendant des années sur les autres Siebel qui ont suivi.
Mais la mise en scène de la révolutionnaire de la Veli, elle était accueillie
très
par un public houleux. Hein,
très fraîchement, et en plus, juste avant mon air, c'est-à-dire qu'il y avait le rideau qui se levait sur une forêt de draps. Et dans ces draps, il y a Siebel qui se promène avant son air avec un paquet de frites à la main, voilà. Grosso modo.
Et vous en pensiez quoi, vous, à cette époque, de ce genre de mise en scène? Au moins, c'était encore nouveau. Maintenant, c'est devenu un système.
Mais, oui, à l'époque, c'était nouveau. Je me souviens de Callas qui avait fait un scandale quand elle l'avait vu. Hein. Et c'est vrai qu'on n'était pas très, très convaincus, nous non plus. Hein.
Restons un peu avec l'Opéra Comique. Hein. Une autre grande œuvre du répertoire, c'est Werther de Massenet, que vous adorez. Et puis alors, vous m'avez recommandé, moi, je suis fou de Nicolas Gueda, que ce soit notamment dans l'opérette viennoise, mais aussi dans le grand répertoire, mais alors dans l'opéra français, il était aussi merveilleux.
Oui, hein. Parce qu'il chantait le français impeccable.
Et là, c'est donc Werther de Massenet, magnifique enregistrement de Nicolas Gueda.
Yeah.
Magnifique page de Werther chantée par Nicolas Guéda. Merci René Auffant.
Il y a des frissons, hein.
De nous l'avoir recommandé. Vous êtes avec nous ce matin. On a évoqué votre jeunesse marseillaise, vos débuts d'assistante de mise en scène. Et puis, votre carrière de chanteuse démarrait un peu par hasard.
Oui.
Et arrêtée finalement relativement vite. Après une dizaine d'années.
Moi, ça n'a pas été un chemin parcouru de fleurs, hein.
Entendez tout à l'heure la belle Hélène, vous avez chanté Alceste.
Oui, j'ai fait
de Lully.
Non, mais j'ai adoré
le rôle de la nymphe de la Seine.
Mais vous savez,
sous la direction de Jean-Claude Malgloire.
C'est au bravo.
Oui,
oui, effectivement.
Et d'autres encore?
Non, très peu. Très très peu d'enregistrements. Et ensuite, moi j'ai beaucoup souffert parce que j'ai eu des problèmes vocaux tout de suite.
Ah oui.
On dépend tellement du professeur. Et moi, je dis toujours, il n'y a pas de bons chanteurs, il n'y a que des bons professeurs.
Et vous n'aviez peut-être pas choisi celui
Mon professeur était formidable, mais il avait 90 ans quand je l'ai connu. Et le pauvre, il est mort, évidemment, avant de m'achever. Ce qui fait que je suis rentré à l'Opéra Comique trop vite. Qu'ensuite, j'ai changé de professeur.
Ouais.
Et qu'alors le second
m'a
liquidé. Et heureusement, Jeannine Michaud est venu m'entendre à Bordeaux, où je chantais Eurydice de Damas. J'avais presque plus d'aigu, mais enfin, je m'en sortais. Et elle est venue, elle m'a dit, vous avez des problèmes? Oui. Elle m'a dit, ben, vous venez chez moi, je vous fais gratuit parce que vous m'intéressez. Et elle m'a remise sur les rails.
En tout cas, vous avez quand même eu le temps, notamment dans ces années-là, de créer quand même trois œuvres de Jean-Michel Damas.
Damas.
Vous avez participé à la création de Madame II, on l'a dit tout à l'heure.
Oui.
Et puis ensuite...
Ensuite, ça a été Eurydice.
Voilà. Toujours avec Anouilh. Hein.
Oui, heureusement qu'il avait écrit pour moi, parce qu'il savait que j'avais des problèmes. Donc, il n'était pas allé trop haut. Vous voyez. Puis après, j'ai chanté L'Héritière, et L'Héritière, ça allait mieux, donc voilà.
L'Héritière, donc c'était avec Louis Ducreux.
C'était Ducreux qui avait écrit le livret d'après le livre Washington Square de Harry James.
Et les deux précédents, donc Madame II, c'était Louise de Villemorin, adaptée par Anouilh.
Oui.
Et évidemment, Eurydice, c'était Anouilh lui-même. Vous l'avez connu aussi, Jean Anouilh?
Oh, très bien. Oui, vous voyez, j'ai aimé tous ces gens-là. Parce que quand même, c'était des gens vraiment qui sortaient de l'ordinaire, on peut dire ça. Et Anouilh était un homme tellement intelligent, un peu secret. Tout ce qui pouvait me plaire. Et ensuite, je l'ai revu beaucoup à Lausanne, puisqu'il habitait Lausanne.
Et son théâtre, injustement délaissé, revient au premier plan, heureusement,
merci,
en ce moment, pauvre Bitos.
Je suis allé voir pauvre Bitos, évidemment. Oui, je vais voir quand il y a la nouille, je vais.
Comment vous avez arrêté de chanter, si j'ose dire?
Eh bien, parce que j'ai eu une sorte de Covid. Maintenant, je me dis, ça devait être un Covid.
Avant l'heure.
Ah oui, parce
après
que
COVID.
Personne n'a su ce que c'était. On n'a pas su.
Vous étiez malade,
tous
ça
les
plus.
Médecins, tous les otorhinos. J'ai pris des tonnes de cortisone, jusqu'à ce que mon médecin généraliste m'ait dit « Bon, ben maintenant, il faut arrêter de chanter, arrêter la cortisone. » Et c'est comme ça que je suis rentré à Nancy.
Et vous avez repris donc le métier, d'une certaine façon, là où vous l'aviez arrêté, après Marseille et Monte-Carlo.
Exactement.
Mais pourquoi à Nancy, auprès de Boursier?
Parce que c'est Léna Reiner qui était mon agent, à l'époque, quand je chantais, et qui était ami avec Boursier. Et quand Boursier cherchait quelqu'un pour faire ses distributions, parce que c'était un homme de théâtre, Boursier, c'était pas un homme d'opéra, il connaissait pas les chanteurs.
Donc il avait besoin d'une
assistante.
Vocale.
Et alors elle lui a dit, bah, prenez René, et puis voilà, c'est fait comme ça.
Et c'est comme ça donc qu'a repris votre carrière de directrice d'opéra à Nancy, et puis ensuite en Suisse, donc à Lausanne.
Sans Nancy, je pense que je n'aurais pas pu aller à Lausanne, vous voyez, ça a été une sorte, une marche d'escalier comme ça. Et puis, oui, effectivement, comme j'étais marié quand même avec...
Avec un Suisse.
Avec un Suisse. Quand il a su qu'il y avait ce poste qui s'est libéré de directeur du Festival de Lausanne. Mais moi, j'aime pas
que
le festival.
Que vous avez transformé en directrice d'opéra, quasiment.
Voilà,
quoi.
Voilà, tout à fait.
Le festival, c'est devenu une suite d'opéra.
Mais je l'ai dit tout de suite. Hein. J'ai dit à tout le conseil de fondation, j'ai dit, moi, je n'aime pas l'idée du festival, c'est idiot, parce que festival, il faut un lieu.
Alors qu'à Lausanne, vous produisiez dans différents endroits.
C'est ça qui était
formidable. Les spectacles lyriques, etc.
Lausanne, magnifique, parce que j'avais déjà trois lieux complètement, plus les autres que j'investissais de temps à autre, quoi, les ponts, les trucs comme ça.
Vous étiez donc devenue quasiment, oui, directrice d'opéra, d'ailleurs une des premières. Hein.
Écoutez, à l'époque,
qui a été la première directrice d'opéra en France ? Je crois que c'était vous.
C'était moi.
Oui, voilà.
On me disait toujours que c'était moi. Alors je l'ai cru.
C'est quand même étonnant. Hein. Il y avait des éminences grises dans les théâtres, des femmes importantes
voilà,
et puissantes.
Ouais, il y avait Johnny Penn, Garnier, qui était très, très, très importante, John. Mais voilà, mais
vous avez été donc la première directrice
en
titre du monde francophone, en tout cas.
Absolument,
oui. Eh bien, écoutez, on va retrouver maintenant, puisque vous savez que nous partageons l'amour de l'opérette, un petit extrait de La vie parisienne par Jean de Sailly.
Oh,
qu'est-ce que ça représente pour vous cette... Vous ne l'avez pas vu, la production Renaud Barrault?
Non, je l'ai pas vu.
Parce qu'on l'a joué encore dans les années 60.
Mais... Non, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu évidemment le DVD. Hein, ah. J'ai vu l'enregistrement et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Vous vous rendez compte, ces acteurs de la comédie française qui chantaient tellement bien.
C'est
et maintenant,
modèle,
ils ne savent même
oui.
plus parler.
Et là, c'est Jean de Sailly qui sait à la fois effectivement parler et chanter.
Être l'amant d'une femme du monde. Mais ça n'est pas une mauvaise idée, ça. Oh, j'en connaissais une autrefois. Elle s'appelait Madame de Beaupertuis. Elle montrait un mari et se disait baronne. Mais était-elle du monde?
Non, monsieur, non, elle n'en était pas.
Joseph, mon ancien domestique.
Moi-même, monsieur. Ah, mais je ne suis plus domestique. Je suis guide.
Guide?
Attaché au grand hôtel. Oui, j'attends un baron suédois qui doit arriver par le premier train. Un baron suédois accompagné de sa femme.
Une baronne suédoise, mais c'est une femme du monde.
J'aime à le croire, monsieur.
Ce baron et cette baronne ne te connaissent pas?
Oh, pas du tout. Ils ont envoyé une dépêche à l'hôtel et c'est moi que l'on a chargé.
Rien ne s'opposerait alors à ce que je prise ta place.
Oh, mais rien du tout, monsieur. Je vous céderai mon baron et ma baronne contre indemnité.
Le baron, je n'y tiens pas. Non, je pourrais pas prendre la baronne seulement.
Ah non, monsieur. Oh non. C'est un lot. Il faut tout prendre ou rien.
Bon, ben alors va pour le lot. Je prends le tout.
Bien, monsieur.
Va me chercher mes Suédois.
J'y vais, monsieur, j'y vais.
Ah, comme c'est drôle. Une femme que je ne connais pas, et je suis ému en l'attendant.
Ce que c'est pourtant que la fille, j'étais l'amande, m'est-elle là? La coquine me plante là, ce que c'est pourtant que la fille, je croyais l'aimer et voilà qu'en un quart d'heure je l'oublie. Ce que c'est pourtant que la fille, j'étais l'amant de Métella. Je vais conduire une Suédoise à travers le monde élégant. Je me fais guide maintenant, je vais conduire une Suédoise. Il faut tâcher d'être amusant et de divertir ma bourgeoise. Je vais conduire une Suédoise à travers le monde élégant. Si cette baronne est jolie, je sais où je la veux mener. Et cela peut se deviner si cette baronne est jolie. Je compte bien la promener dans les sentiers de la folie. Si cette baronne est jolie, je sais où je la veux mener. Je sais où je la veux mener.
Et oui, hein, quand on chante comme ça, alors qu'on n'est même pas chanteur, effectivement,
mais oui, quand
et quand
même.
On parle si merveilleusement. Ah. C'était Jean de Sailly dans La vie parisienne, production Renaud Barrault, l'air de Garde-feu. Encore un choix de mon invité aujourd'hui, René Auffant, qui fut donc la première directrice d'opéra.
Paraît-il.
voilà, une femme à l'avant-garde du combat féminin, sans l'avoir voulu, mais enfin, ça s'est passé comme ça.
Ça s'est passé comme ça. Oui,
et
le
vous,
hasard.
Vous avez été donc tout de suite après Lausanne, ça a si bien marché qu'on Gall, qui était directeur à Genève, il n'a pas été le seul sûrement, mais a pensé à vous pour lui succéder.
Il y avait pensé, oui. Il y avait pensé, il m'avait téléphoné, et puis je lui avais dit non.
Non.
Non, parce que moi j'aimais les petits théâtres.
Ah oui.
Voilà, j'aimais les petites salles.
Alors là, on passe dans une autre catégorie, évidemment.
Et là, j'arrivais dans, une grande salle qui, a priori, ne m'intéressait pas. Elle m'a dit, ah bon, mais c'est dommage, tout ça. Et puis après, le président de la fondation, qui venait voir mes spectacles, je connaissais très bien sa femme, oui. Ils sont venus et m'ont demandé de prendre la succession
du Grand Théâtre de Genève.
Et moi, je ne voulais pas. Ben, j'ai d'abord refusé.
Et
puis finalement, j'ai accepté. Voilà, parce que vous avez m'a poussé casa dessus, qui me disait, mais c'est pas possible, tu dois...
Jean-Claude. Ah, oui,
il m'a beaucoup apporté sur le plan musical.
Ouais. Et il vous a poussé donc lui aussi à accepter.
Et lui
donc,
m'a dit, mais t'es cinglé, tu dois y aller. Quoi, voilà.
Je vous posais la question tout à l'heure, comment était dans vos jeunes années le public de l'Opéra de Marseille. J'ai envie de vous demander, et le public suisse, comment est-ce qu'il est?
Écoutez, il est charmant.
Oui.
Oui, parce que moi j'avais très peur, surtout de Genève. À Lausanne, ça a été très différent parce que à Lausanne, il n'y avait pas d'opéra quand je suis arrivé.
Vous avez tout créé.
Ce qui
fait Genève, il y a une tradition de musique française en
voilà,
plus.
Là-bas,
pas tant que ça.
Pas tant que ça. Non, ouais. non. Ils sont beaucoup wagnériens. Oui, malheureusement.
Nul n'est parfait.
Nul n'est parfait. Oui. En revanche, à Lausanne, c'était plus facile de faire le répertoire que j'aime, vous voyez. J'ai quand même fait Hamlet là-bas.
Ah oui, hein, en Brastoma toujours.
Ça, Hamlet, et puis j'ai dû forcer tout le monde, hein, parce que personne ne voulait le faire. Ni le metteur en scène, ni le chef qui était Louis Langrais.
Tout le monde trouvait ça ringard, puis on a découvert une belle œuvre.
Une œuvre magnifique. Voilà.
Alors, je ne sais pas si c'est Genève qui vous a conduit vers Honegger, parce que c'est plus tard à Marseille que vous avez monté la grande œuvre d'Ibert et Honegger qui s'appelle L'Aiglon. Mais Honegger, évidemment, il avait une place un peu particulière, déjà, j'imagine, dans vos activités en Suisse.
Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Moi, j'avais monté un opéra qui était magnifique et que d'ailleurs, sa fille m'a dit, comme vous avez eu raison, parce que c'était Antigone de Honegger.
Antigone.
Magnifique.
Avec
très
Cocteau.
Court, mais qui est très difficile à chanter et à distribuer. Alors, j'avais toujours eu envie de monter L'Aiglon.
Alors, L'Aiglon qui est donc co-composé par Honegger et Ibert, mais ils sont fait chacun la moitié à peu près, on sait qui a fait quoi. Hein.
Chacun a fait son truc. Et je dois dire, c'est un de mes opéras préférés maintenant, après l'avoir monté. Parce que quand on écoute le disque, c'est pas terrible.
Ah oui, mais là, vous parlez d'un vieil enregistrement. Mais depuis, donc, cet Aiglon a été réenregistré après que vous l'ayez monté à Marseille.
Ah oui, par Jean-Pierre Bosman, qui s'est occupé de ça, d'accord. Celui-là, il est très bon. Très, très bon. Oui.
On va retrouver cette œuvre. Je ne sais pas ce qu'elle vaut scéniquement, mais en tout cas, musicalement, c'est une partition admirable.
Oui, mais scéniquement, c'était extraordinaire. Hein. Quand je l'ai monté, c'était d'abord avec Alexia Cousin. C'était L'Aiglon.
Et là, donc, on va écouter le duo entre le duc, en fait, c'est L'Aiglon, hein.
Oui.
Voilà, le duc de Reichstadt.
Oui. Quel bel opéra.
Et puis Flambeau, qui est dans l'opéra.
C'est le soldat de Napoléon, vous savez, c'est le grognard.
Le grognard, voilà, chanté ici par Marc Barrard.
Essuyez-vous les yeux avec le roi.
L'Aiglon, là, c'est un duo signé Jacques Ibert et qu'on entendait donc chanter par Marc Barrard et Anne-Catherine Gillet, que vous connaissez,
ah ben,
je crois.
Anne-Catherine Gillet, justement, c'est elle que j'ai mise en scène dans L'Héritière
de
à Marseille
Ducreux
et Damas.
Voilà, tout se tient. Alors, quand on parle de Marseille, René Auphan, on dit toujours, voilà, c'est une ville extraordinaire, avec une grande tradition musicale, avec un très bel opéra. Et en même temps, c'est un peu spécial, l'opéra de Marseille, dans la vie des théâtres en France. C'est une régie municipale, avec un fonctionnement compliqué.
Municipale, c'est-à-dire, voilà. C'était un peu le vœu de Monsieur Godin, quand j'étais allé lui en parler, parce qu'évidemment, tout le monde demandait à ce que ça devienne national, ou qu'on change.
Et le maire ne voulait pas.
Il m'a dit jamais, René, il m'a dit, parce que moi, je veux garder absolument l'opéra pour moi, pour la ville, et qu'il n'y ait pas d'ingérence. Et donc, ben voilà, on était absolument municipaux.
Ça ne simplifie pas toujours le fonctionnement pour monter des productions, prendre des initiatives. Voilà. On est un service de la mairie, quoi.
Et voilà, exactement. Et ensuite, alors donc, je vous raconte pas, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Mais par exemple, moi qui arrivais de Suisse, où je trouvais des mécènes, des sponsors, etc., ce qui nous aurait bien arrangé, personne ne voulait, parce que l'argent allait direct
à la mairie.
À la mairie. Alors, voilà, il n'y avait pas moyen.
En tout cas, c'est un magnifique théâtre qui n'était pas forcément très bien équipé quand vous arriviez en salle de répétition, aux choses comme ça.
Mais c'est toujours à peu près pareil.
C'est toujours pareil.
Sauf que quand même, moi, j'ai obtenu une salle de répétition pour l'orchestre,
car
il n'en avait pas.
Il n'en avait pas non plus.
Mais vous vous rendez compte. Mais ce qui a beaucoup changé à Marseille, c'est le public. Parce que le public, il est toujours là.
Vous l'avez fait revenir pour
vous. Il est vraiment revenu. Oui. Mais alors, autrefois, il y avait un public très réactif. Épouvantablement réactif. Hein. Il y avait chaque spectacle, il y avait toujours quelqu'un qui se faisait siffler. Hein.
Ah oui, d'accord.
Là, maintenant, il est beaucoup plus calme, je dirais. Et je trouve que le public, d'une manière générale, un peu partout, est presque passif. Un peu trop.
Un peu trop. Oui, c'est bien quand les gens ne sont pas forcément toujours d'accord, c'est bien aussi.
C'est bien aussi, oui, ça fait vivre.
René Auphan, on va devoir malheureusement se quitter. On va se quitter d'ailleurs avec un petit air d'opérette encore. Parce qu'il faut rappeler aussi quand même que Marseille, où vous êtes d'ailleurs, je crois, fort bien entendu avec le maire Jean-Claude Godin, qu'on
évoquait
à l'instant.
Oui, très bien.
Vous étiez en confiance mutuelle. Et Marseille, à son initiative, et encore aujourd'hui, est la dernière ville de France à avoir une grande saison d'opérette au théâtre de l'Odéon.
Oui, le théâtre de l'Odéon, mais ça, alors je dois dire que justement, je vais faire vraiment la publicité de Maurice Zibéras, mais Maurice Zibéras, je pense, est un des seuls directeurs actuels à savoir monter l'opérette et la distribuer, surtout.
Et la distribuer, rien non plus, bien entendu.
Et ce qui fait que maintenant, Marseille a ce théâtre d'opérette, j'espère qu'ils vont le conserver.
Il faut qu'ils le conservent.
Parce que c'est vraiment la dernière ville... En Europe, je dirais presque.
Avoir une grande saison d'opérette.
Une saison d'opérette presque aussi importante que celle de l'opéra.
Ben merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, René Auphan. Je crois qu'on va prendre tout de suite une autre date parce que je sens qu'on n'a pas du tout fait le tour de tout ce qu'on pouvait se dire. Mais on va se quitter avec une femme que j'aime beaucoup. Tiens, c'est encore des histoires de filles. On a parlé des Drans tout à l'heure. Il y a les Stutzmann aussi.
Ah oui, Christiane Stutzmann.
Christiane Stutzmann, rappelez-nous qui elle est par rapport à Nathalie Stutzmann.
C'est sa maman.
C'est sa maman. On va l'écouter dans la fille de Madame Angot, la grande valse tournée Christiane Stutzmann. Merci d'avoir été avec nous ce matin, René Auphan. Et vraiment, j'espère vous revoir très, très bientôt.
C'est un plaisir, puisque vous savez que je vous adore.
Oh.
jurés qui sont ici.
Du directeur Barros, à moi, voyez la ville. Et nos conjurés, les voici.
Et c'était l'orchestre de l'Opéra Comique sous la direction de Jean Doussard qui accompagnait la belle Christiane Stutzmann dans cette version de La fille de Madame Angot choisie par mon invité d'aujourd'hui, René Auffant. C'est la fin d'Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Annie Comier avec aujourd'hui à la technique Pierre Monteil, réalisation David Travailleur. Et la semaine prochaine, on sera en famille avec trois Souchons, Alain, Pierre et Charles, ses deux fils qui viendront nous parler de leur tournée. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique. Et sans plus attendre, vous avez rendez-vous avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.